Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. En forme, nous sommes le jeudi 13 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Un cadre déontologique pour les banquiers, c'est l'idée lancée par le ministre des Finances, Vincent Van Petegem. Le projet sera bientôt sur la table du gouvernement, on vous explique de quoi il s'agit. Les startups à succès, celles qui rapportent beaucoup à leurs investisseurs, sont une minorité. C'est un risque à prendre, on vous dévoile les résultats d'une étude à ce sujet. Et puis Bruxelles Formation qui lance un appel aux entreprises pour qu'elles recourent plus souvent à ces services, c'est aussi au programme du jour. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info, dès 7h.
On connaissait le serment d'Hippocrate prononcé par les médecins. On connaissait aussi celui des avocats, mais pas encore celui des banquiers. Il ne devrait pourtant pas tarder à arriver sur la table du gouvernement. Le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, s'est saisi du dossier. L'idée avait germé dans la foulée de la crise financière de 2008. Puis bien après, en Belgique, une loi avait été votée en 2019, mais n'avait jamais été appliquée. Cette fois-ci, le projet est relancé. Le ministre des Finances a dépoussiéré l'idée. Il s'est appuyé sur le modèle néerlandais en tenant compte de ses erreurs pour les éviter en Belgique. Mathieu Collein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos journalistes politiques à l'Écho. Comment sera organisé ce serment pour les banquiers ?
Contrairement à ce qui avait été prévu par la loi de 2019, il ne s'agit pas de créer un nouvel organe, une nouvelle commission pour organiser cette prestation de serment, mais finalement c'est confié à la FSMA, donc l'organe de contrôle des marchés financiers, qui va devoir établir le contenu du serment, hein, qui est un engagement déontologique assez basique, hein, basé sur l'intégrité du service, l'équité entre les clients, le respect des clients des banques. Ce sont les institutions bancaires qui vont devoir communiquer la liste de tous leurs collaborateurs à la FSMA, qui pourra se saisir de plaintes éventuellement s'il y a des violations qui sont constatées dans les banques, et qui pourra aussi instruire des cas qu'elle repérerait elle-même dans le cadre de ses missions initiales. Mais donc, il n'y aura pas une initiative de contrôle de la part de la FSMA dans ce dossier-là.
Pas un mot sur la situation de Deleuze en Belgique. On s'attendait pourtant à une assemblée générale des actionnaires du groupe assez houleuse. Hier, en banlieue d'Amsterdam aux Pays-Bas, il n'en a rien été. 150 militants belges issus de syndicats se sont massés sur les lieux. Pour invectiver les participants, leur message était clair, actionnaires vendus ou prenez votre dividende profiteur, mais ça s'est arrêté là. Les représentants du personnel voulaient rappeler aux actionnaires et aux dirigeants d'Ahold Deleuze leur opposition au projet de franchiser les 128 magasins intégrés belges. Confinés à l'extérieur du centre des congrès qui accueillait la réunion, ils n'ont recueilli que quelques regards interrogateurs ou polis des actionnaires et des dirigeants. À l'intérieur, seul le CEO d'Ahold Deleuze a fait allusion à son plan d'économie. Pour assurer, a-t-il dit, la digitalisation et la durabilité de l'entreprise, tout en garantissant sa stabilité financière. Une sur dix, ça semble finalement peu, et pourtant, à croire les spécialistes, c'est déjà beaucoup. Vous demandez peut-être de quoi je veux parler en ce moment. Eh bien, sachez qu'une start-up sur dix, soutenue par des capital risqueurs européens, rencontre un réel succès, c'est-à-dire qu'elle rapporte plus de 10 fois la mise à ses premiers investisseurs. C'est ce qui se dégage d'une étude sur le secteur menée par différentes écoles de commerce du continent, dont la Vlerick Business School en Belgique. Ces succès sont importants pour la santé de l'écosystème du capital risque, nous explique Sophie Manigard, elle est professeure de finance d'entreprise à la Vlerick Business School.
Il faut quand même dire qu'il y a bon nombre de startups qui font faillite, qui ne retournent pas l'investissement initial aussi. Donc, on a vraiment besoin de ces winners, de ces grands succès pour compenser les faillites et les startups qui ne survivent pas ou qui n'apportent pas ce qu'on aurait prévu.
Pour ce qui est des succès plus classiques, c'est-à-dire moins rentables, mais où les retours sur investissement dépassent les attentes, là, on est plutôt autour d'une startup sur quatre. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les équipes qui mènent les projets qui sont déterminantes pour les investisseurs.
Ça ressort très fortement de notre étude, aussi bien au niveau de la sélection des cibles, des targets. Là, l'équipe est vraiment le critère le plus important pour sélectionner les entreprises qui recevront du capital risque. Mais on voit aussi que c'est le facteur le plus important qui font d'une société un succès ou pas de succès. Donc avoir une équipe forte, complémentaire, avec beaucoup de ressources humaines est très importante. C'est le facteur numéro un.
Les venture capitalistes. Parlons-en encore si vous le voulez bien. La période dorée de l'argent facile où ces investisseurs en capital risque pouvaient décrocher des millions pour investir dans les startups semble bel et bien révolue. Les banques et les fonds d'investissement resserrent les cordons de la bourse. Par conséquent, ces capital risqueurs vont chercher de l'argent ailleurs. Ceux de la Silicon Valley, par exemple, se tournent de plus en plus vers les pays du Golfe pour renflouer leurs caisses. Le fonds souverain d'Arabie Saoudite a récemment révélé ses partenariats avec près de 40 sociétés américaines du secteur et pas des moindres. Il faut dire que les pays du Golfe font tout pour attirer les investisseurs et ainsi diversifier leurs économies en dehors du pétrole. En Europe, on semble moins enclin à évoquer le sujet, surtout par peur des questions éthiques. Pourtant, la tendance est bien réelle, chez nous également, depuis quelques années, nous confient des acteurs du secteur. Le rapport annuel n'est encore que préliminaire, mais l'Écho a pu le consulter. En 2022, Bruxelles Formation a pris en charge plus de 14 500 chercheurs d'emploi. L'objectif est de monter à 16 000 cette année, soit le même niveau qu'en 2019. De l'aveu même de sa patronne, Olivia Ptitot, l'organisme bruxellois pourrait même en faire beaucoup plus. Mais c'est aussi parce que les entreprises n'y font pas suffisamment appel. Bruxelles Formation a ses spécificités et répond à des besoins très précis des entreprises. C'est même l'un des objectifs de son contrat de gestion 2023-2027, comme nous l'explique Olivia Ptitot.
On est vraiment à même de pouvoir orienter notre offre vers cette programmation vraiment sur mesure avec des employeurs qui s'engagent à engager. Et les employeurs peuvent se mettre à plusieurs pour des postes de travail qui seraient identiques, des besoins qui seraient identiques. Toutes les expériences que l'on a eues jusqu'à présent avec des employeurs qui s'engagent à engager ont porté leurs fruits, c'est-à-dire qu'en termes de résultats, ça a vraiment permis un retour à l'emploi tout à fait exceptionnel. Voilà, on ne peut qu'appeler d'autres employeurs à faire de même. Donc, pour moi, c'est clairement une envie, en tout cas, de se faire entendre pour pouvoir dépasser le cadre homéopathique dans lequel on est aujourd'hui.
De mois en mois, les chiffres restent élevés, sans doute trop élevés. Je veux bien sûr parler de l'inflation aux États-Unis. À 5% sur un an le mois dernier, elle continue à diminuer, plus vite même que ce qu'attendaient les marchés, mais ce ne sera certainement pas suffisant pour faire infléchir la politique monétaire de la Fed. La réserve fédérale américaine devrait continuer à augmenter ses taux d'intérêt directeurs au mois de mai, date de sa prochaine réunion. Si les prix d'énergie diminuent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'inflation sous-jacente qui est tenace. Elle a même augmenté le mois dernier, signe Core Énergie et Alimentation. Les prix poursuivent leur course vers le haut aux États-Unis. Ce qui veut dire que l'inflation se répand dans tous les secteurs. On est donc loin d'être sorti de l'auberge. Ce n'est pas parce qu'on est une petite scale-up bruxelloise qu'on ne peut pas avoir de l'ambition et s'implanter sur le marché américain. Pour Assa Optics, ce n'est même plus un rêve, c'est une réalité. En tout cas, ça le sera dans les toutes prochaines semaines. L'entreprise se rendra à un congrès à San Diego début mai pour officialiser la nouvelle. Elle va commercialiser de l'autre côté de l'Atlantique toute sa gamme d'instruments de chirurgie ophtalmologique à usage unique et recyclable. La distribution sera assurée par Rainer, son nouvel actionnaire britannique, une aubaine. Assa Optics vise particulièrement la chirurgie de la cataracte, un marché en pleine croissance avec le vieillissement de la population. Mais la scale-up bruxelloise devra quand même se faire une place aux États-Unis, comme l'explique Eric Tscharner, le CEO de l'entreprise.
Il y a deux types d'instrumentation en chirurgie ophtalmologique. Et notre instrumentation à usage unique, c'est vrai, est peu utilisée aux États-Unis, sauf dans ce qu'on appelle les VA, c'est-à-dire les vétérans, l'armée, puisque par définition, sur les champs de bataille, dans les hôpitaux militaires, ils ont besoin de choses jetables. Mais il est vrai que dans les grandes structures, dans les grands hôpitaux, et surtout pour la chirurgie de la cataracte, les instruments jetables sont peu utilisés. Nous avons une approche un petit peu différente puisque nous avons une approche à la fois qualitative et une approche financière. Et nous pensons que le fait que les centres de jour dans lesquels sont réalisés la plupart des 3,5 millions de chirurgies de la cataracte pratiquées annuellement aux États-Unis sont de plus en plus globalisés et nous pensons qu'ils seront intéressés par notre approche qui est une approche à la fois qualitative mais aussi une approche de réduction et de contrôle des coûts.
Voilà, on peut dire que certains ont une vision et savent voir plus loin. Je sais, elles étaient un peu faciles, celles-là. Mais en tout cas, si c'est votre cas, soyez créatifs. Sur ce, je vous laisse vous repencher sur votre quotidien et je vous souhaite une très belle journée. À demain.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.